Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Un débat un peu particulier ce soir. Nous allons vous dévoiler les coulisses de notre métier. Tout au long de l'année, nous cherchons des sujets, des invités pour notre rendez-vous quotidien avec vous. Et il se trouve que c'est parfois difficile, certains diront de plus en plus difficile. Il y a les sujets très clivants comme le Proche-Orient, le Venezuela où les différents bords n'ont plus très envie de se parler. Il y a les dossiers brûlants sur les crises en cours. C'est souvent le cas sur RFI avec des dossiers africains, il est parfois impossible, admettons-le, de réunir sur le même plateau les camps opposés. Et puis, il y a des sujets qui semblent de prime abord plus faciles, des sujets de société, comme on dit, terrorisme, laïcité, rapport à l'islam politique, OGM, principe de précaution, féminisme, des sujets qui font l'objet de crispations dans notre société, la société française, et parfois dans nos rédactions. C'est en tout cas le regard porté par certains observateurs. Peut-on, veut-on débattre de tous les sujets en France, c'est notre thème du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux invités en studio avec nous ce soir, deux amateurs d'idées. Nicolas Truong, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, directeur des pages Idées Débats du journal Le Monde. Vous êtes par ailleurs metteur en scène. Vous avez notamment monté cet été au Festival d'Avignon, créé l'interview. C'est le titre de votre pièce qui sera reprise au Théâtre du Rond-Point à Paris à partir du 21 février. Pour débattre avec vous, Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, producteur sur France Culture, grande radio amie de l'émission Le Tour du Monde des Idées. Et pendant 5 ans, de 2011 à 2016, vous avez été éditorialiste dans la matinale de France Culture qui s'appelle Les Matins. Une expérience sur laquelle vous êtes revenu dans une interview accordée au Figaro, c'était cet été. Vous êtes donc revenu sur cette expérience et vous y disiez, je voudrais commencer par vous citer, ce qui m'a frappé dans les débats de ces dernières années, c'est la difficulté avec lesquelles ils sont parvenus à émerger, ces débats. Car les plus importants d'entre eux portent sur les sujets dont le parti des médias, vous reprenez l'expression de Marcel Gauchet, tente d'empêcher l'évocation. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Que les médias boycottent aujourd'hui certains sujets, boycottent certaines idées?
Non, ce que je veux dire, c'est que dans toute époque historique, et Dieu sait si la nôtre est une époque de tournant historique, à partir de cette année en particulier, il y a des angles morts. Il y a des angles morts qui sont souvent les facteurs essentiel du changement, les facteurs essentiels du mouvement historique qu'on est en train de vivre. Et ces angles morts sont précisément toujours mal perçus par les médias. On peut remonter aussi loin qu'on veut dans l'histoire des médias. Il y a toujours de ces angles morts. J'avais pris l'exemple, mais je pourrais en trouver d'autres, de la remilitarisation de la Rhénanie par Adolf Hitler en 1936. Si vous voyez la presse de l'époque, c'est un événement qui passe relativement inaperçu. En tous les cas, l'idée qu'il puisse y avoir une guerre avec l'Allemagne est une idée absolument rejetée par le parti des médias de l'époque, toute tendance confondue, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'homogénéité idéologique qu'il n'y en a aujourd'hui.
Et l'angle mort d'aujourd'hui, ce serait lequel?
C'est la menace que fait peser l'islam politique, l'islam radicalisé sur les démocraties. Il y en a d'autres. Il y a la menace que Poutine fait peser sur nos médias, sur les réseaux sociaux en particulier.
On en parlera lundi dans le débat d'ailleurs.
Il y a un certain nombre de menaces comme ça qui pèsent sur nos démocraties, qui les fragilisent et qui sont très mal vues, mal perçues, mal comprises par ce parti des médias.
Nicolas Truong, sur cette expression « partie des médias », est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que vous la rejetez?
Je trouve que ce type d'expression est extrêmement dangereux parce que le parti des médias, dans un pays comme la France, où l'on compte aussi bien le monde diplomatique que Valeurs Actuelles, me semble quelque chose d'abusif. Il faut faire attention à ne pas réaliser en pratique ce qu'on dénonce en théorie. On ne peut pas vouloir critiquer le côté Big Brother, si vous voulez, de certaines pratiques, et en même temps utiliser le même langage précisément que celui du langage totalitaire pour désigner un parti des médias aujourd'hui en France. Et je crois très sincèrement que, au fond, je crois que souvent ceux qui disent qu'on ne peut pas débattre en France sont précisément ceux qui fixent d'une certaine manière l'agenda idéologique et journalistique du pays. D'ailleurs, il s'agit souvent de eux-mêmes, de journalistes qui nous disent qu'on ne peut pas débattre. De quoi ? L'islam politique ou les soucis que peut rencontrer ou ce qu'on peut rencontrer dans le monde musulman aujourd'hui. Or, moi, j'ai l'impression vraiment que on ne parle presque que de ça aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a tout un spectre, pour le coup, journalistique, qui ne parle précisément que de cette question. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. J'appartiens à un journal qui, précisément aussi, pose les questions, et les questions qui fâchent concernant l'islam politique. Mais il me semble que c'est un peu abusif qu'il y ait des angles morts, oui, parfois, ça arrive, bien entendu, des choses qu'on ne voit pas, mais c'est pas tout à fait pareil que des choses dont on ne veut pas parler. Or, aujourd'hui, il me semble qu'on peut débattre de tout. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Pierre Desproges, là, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut débattre de tout, mais parfois, on le fait n'importe comment. Et je ne dis pas ça pour Brice Couturier, bien entendu, mais je dis ça pour une série d'émissions, de façons de faire du débat, qui ressemblent plus à des matchs de catch, qui se transforment, qui voient le monde de façon bipolaire, binaire, où on met les pour et les contre, où on met d'un côté, par exemple, sur l'école, quelqu'un qui veut le retour de la blouse grise à l'école, et en face de lui, un pédagogue libertaire que même en mai 68, on n'a jamais vu arriver.
Et donc, ça favorise la polarisation des discussions.
Et ça impose des problématiques qui n'existent pas. Alors, bien sûr qu'il y a des problèmes à l'école, et importants, mais qui ne sont pas toujours, au fond, ceux que l'on veut bien poser.
Brice Couturier, qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Truong?
Moi, je pense quand même qu'il y a un parti des médias. Je précise que cette expression, j'en suis pas l'inventeur et Marcel Gauchet non plus. En réalité, elle a été utilisée par Georges Suffer, qui était un éditorialiste de droite dans les années 70, dans un livre qui s'appelait Les intellectuels en chaise longue. Mais ça, je l'ignorais. Moi, j'avais juste vu Gauchet le citer. Non, moi, ce que j'ai cru remarquer dans mon métier, parce que je travaille aussi pour des hebdomadaires, enfin, je travaille pour Le Point assez régulièrement, et puis je lis la presse, tout simplement. Moi, ce que j'ai cru remarquer, c'est une chose importante et capitale de notre époque, sur le plan médiatique, c'est que les journalistes avaient, jusqu'à il y a une époque assez récente, avant jusqu'à Internet, en gros, le monopole de la relation des faits en temps réel. C'est-à-dire que, je me souviens très bien, on était là devant nos ordinateurs à regarder le fil de l'AFP et on était les premiers à bondir sur une info parce qu'on était les premiers à l'avoir vue. C'est fini. Aujourd'hui, ce monopole de l'information, il est supprimé. Alors, comment ont réagi les chers confrères? Ils ont réagi en devenant des directeurs de conscience. Ils ont réagi non plus en relatant les faits, mais en donnant ce qu'il faut en penser. Et là, il y a un parti des médias. Il est évident. Alors, ce parti des médias.
Est-ce que vous pouvez être un peu spécifique, nous donner par exemple un exemple de médiateurs, comme vous dites, qui seraient des directeurs de conscience aujourd'hui sur quel sujet?
Si vous voulez, l'idée, c'est que tout le monde est en train de devenir éditorialiste. Je parle de manière extrêmement jalouse, parce que moi, j'ai rêvé de devenir éditorialiste. Et je le suis devenu, parce qu'au matin, c'était le boulot que j'ai eu pendant 5 ans à France Culture. J'étais l'éditorialiste de cette chaîne. Mais je voudrais que mes chers confrères, eux, renoncent à cette fonction et me la laissent, si vous voulez. Il y a des gens qui font ça très bien. C'est Jacques Julliard, c'est Jean Daniel, etc. Des gens admirables. Mais c'est un métier d'être éditorialiste, de donner son avis. Mais de plus en plus de journalistes ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils disent en même temps de manière subliminale ou carrément très ouverte ce qu'il faut en penser. Ils mettent en garde contre les réactions éventuelles qu'on pourrait avoir, que pourrait susciter tel fait qu'ils délivrent souvent d'ailleurs au compte-gouttes.
On en vient un peu à la nature du journaliste finalement et de son travail. Nicolas Truong, des journalistes directeurs de conscience.
Oui, c'est un fait que avec la prolifération des réseaux sociaux, de l'information, de l'immédiateté de l'information, ce qui est intéressant pour beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs, c'est bien sûr quand des journaux, quels qu'ils soient, donnent un peu, tentent en tout cas de donner de la profondeur à l'actualité, essayent d'éclairer par les idées, c'est ce qui m'anime au journal Le Monde, de essayer de tenter de donner un peu de profondeur à l'actualité. Donc du coup, évidemment, il y a une tentation, en effet. Puis, d'une part, les intellectuels ont parfois remplacé sur le terrain idéologique les politiques, et puis, en effet, les éditorialistes, journalistes, polémistes ont remplacé d'une certaine façon aussi parfois les politiques, voire même certains intellectuels. Donc effectivement, il y a toute une cohorte de journalistes éditorialistes qui, comme je le disais tout à l'heure, fixent un peu l'agenda idéologique et politique en France. Mais contrairement à ce que dit Brice Couturier, je pense que l'hégémonie culturelle, oui, elle a quand même plutôt changé de camp. Et qu'aujourd'hui, la petite musique, c'est pas le parti des médias tel que vous l'entendiez tout à l'heure. Un parti qui serait de gauche ou ce que vous appelez le macartisme de gauche. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé de camp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, il y a une hégémonie culturelle de la droite ou d'une génération conservatrice qui, effectivement, fixe l'agenda. Et d'ailleurs, ces gens-là dont nous parlons, ils ont souvent des émissions. C'est des gens qui eux-mêmes fabriquent l'opinion. Donc effectivement, je pense que, et là je serais d'accord, c'est-à-dire qu'il faut rétablir effectivement un certain magistère intellectuel. C'est-à-dire que d'une certaine façon, trop de journalistes, éditorialistes qui ne sont pas en contact non plus avec les faits, parce que les idées, c'est aussi un terrain, c'est un terrain d'investigation comme un autre, font de la polémique et, à mon avis, ne rendent pas service au débat public aujourd'hui dans une société française extrêmement fracturée.
Brice Couturier, rétablir un magistère intellectuel, là-dessus, vous rejoignez effectivement Nicolas Truong. Ce qui pêche, c'est aussi la qualité de certains intellectuels en France.
Oui, c'est évident qu'on n'est plus à l'époque bénie de Sartre et Camus. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que hélas, le niveau a beaucoup baissé entre temps. C'est comme le niveau de notre instruction, d'ailleurs, notre appareil scolaire de manière générale. Oui, il y a beaucoup de baisse. Moi, ce qui me préoccupe surtout, si vous laissez que je pense.
Pardonnez-moi, je me permets. C'est effectivement, on n'est plus à l'époque de Sartre et Camus, mais il existe encore des grands intellectuels. Mais ceux qui ont pris la place de Sartre et Camus ne sont pas nécessairement des intellectuels de renom qu'on pourrait citer. Il y en a beaucoup aujourd'hui, à droite comme à gauche. Mais plutôt, effectivement, ces faiseurs d'opinion, ces polémistes qui envahissent les plateaux de télévision et les studios.
Brice Couturier.
Moi, si vous voulez, je pense que le pays, la France, est gravement malade sur le plan économique, social et culturel. Et je pense qu'on a besoin d'un diagnostic partagé sur les causes de ce malaise qui nous fait dégringoler. Et tant qu'on aura affaire à des intellectuels qui seront incapables de se mettre d'accord sur ce diagnostic partagé, plus la solution des problèmes reculera devant nous. Moi, je me méfie surtout, si vous voulez, de ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle de plus en plus les bulles cognitives ou les bulles de filtre. Puisqu'en réalité, nous les journalistes, nous avons perdu le pouvoir de façonner l'opinion. Ça, on le voit bien avec le Brexit et Donald Trump. Le parti des médias, enfin, s'il y a un parti des médias aux États-Unis, on l'appelle le One Party Media. 114 journaux américains, je crois me souvenir, avaient choisi Hillary Clinton. 4 avaient choisi Donald Trump et c'est celui-là qui a gagné. Donc, on voit bien que les médias traditionnels sont en déphasage par rapport à l'opinion publique, qu'ils ont du mal à suivre. L'opinion publique, elle se façonne dorénavant, on le sait bien, et de plus en plus sur les médias sociaux. Or, ces médias sociaux, là, m'inquiètent encore beaucoup plus que le parti des médias, parce qu'ils organisent des bulles cognitives autour de nous. Nous ne sommes renvoyés sur Facebook que sur des gens qui pensent comme nous. D'où la tendance que nous avons tous à radicaliser nos points de vue, puisque nous sommes poussés par notre entourage sur Facebook à se radicaliser.
Ce qui rend le travail des journalistes encore plus nécessaire, mais mal fait, selon vous.
Ce qui rend le diagnostic sur l'état de notre pays de plus en plus compliqué, voilà.
Sur le diagnostic du pays, c'est aussi votre travail, Nicolas Truong, que de trouver les bonnes personnes pour parler des bons sujets. Alors
oui, je crois qu'on a un rôle important à jouer, précisément. Alors que il y a une sorte d'inflation des polémistes à caractère intellectuel, mais qui, au fond, n'ont ni œuvre derrière eux, ni fait d'armes. Je pense que le rôle, effectivement, du journalisme d'idées, du journalisme intellectuel, consiste, en effet, à lire, à aller au colloque, à repérer, à lire les revues, pour précisément, et international, je pense que c'est important de le dire sur cette radio, c'est très important, parce qu'il y a quand même, effectivement, un regard assez franco-centré sur la vie intellectuelle, la façon de diagnostiquer la société. Je pense que ça, c'est très, très important. Et il y a un rôle central, parce que il faut que la mondialisation, pour le coup, soit aussi la mondialisation des idées. Et pour revenir à ce que disait Brice Couturier, moi, je dirais que quand même, d'où l'importance aussi du dissensus, parce qu'il y a, bien sûr, il doit y avoir un consensus, si vous voulez, intellectuel, pour se parler, pour pouvoir encore dialoguer. Mais je pense que précisément parce qu'il y a ces bulles cognitives, parce qu'il y a ces bulles de savoir, parce qu'on est enfermé effectivement dans sa bulle où on est tendance, pour faire vite, néo-réac, où on est tendance, au contraire, gauchiste, on a ses propres médias d'information, on reçoit les newsletters qui appartiennent à notre monde. Je pense que c'est précisément important d'avoir des intellectuels qui s'entendent, qui sont d'accord sur ce que c'est qu'être un intellectuel, sur ce que c'est que précisément penser, sur ce que c'est qu'être la connaissance et le savoir, mais qui parfois peuvent faire émerger justement des désaccords. Je pense que c'est très important, il ne faudrait pas qu'on passe de la polémique à une sorte de consensus mou. Je pense qu'on peut chercher un dissensus intellectuel fécond pour penser ce qui nous arrive.
Alors, à propos de dissensus intellectuel fécond, il y a eu récemment un livre d'économistes, alors j'ai plus les références là, mais qui a vraiment été très offensif contre une église économique. C'est plutôt très sain, ce genre de débat, Brice Couturier.
Alors, c'est un très bon livre, parce que c'est un livre d'économistes professionnels qui vise à expliquer qu'un certain nombre de gens qui parlent beaucoup dans les médias d'économie ne sont absolument pas des économistes et disent n'importe quoi. Moi, je suis très frappé du fait que quand on on parle de certains sujets de société, on nous dit « vous n'êtes pas sociologue, vous n'avez pas la parole, taisez-vous », et il y a une espèce de parole d'autorité qui émane des enseignants et des chercheurs en sociologie pour nous intimer le silence sur certains sujets, alors que par contre sur l'économie, bizarrement, là on nous dit que ce n'est pas une science, que tout est permis et qu'on peut raconter n'importe quoi. Non. Alors justement, je rebondis sur votre question parce que il me semble que dans la catégorie du diagnostic partagé, là on a vraiment un noyau dur. Je m'explique. La France est un pays malade parce qu'elle a un niveau de chômage tout à fait extravagant par rapport à ses voisins, un niveau de la dépense publique extravagant par rapport à ses voisins, là encore. Or, vous avez deux camps.
Pas tous.
Vous avez deux camps. S'il n'y a qu'un seul pays dans tout l'OCDE qui dépense davantage que nous, c'est le Danemark. Donc l'État est le plus dépensier que nous, c'est le Danemark. Tous les autres sont en dessous, très en dessous. 11% de PIB de moins pour l'Allemagne, par exemple. Or, le diagnostic sur le pays devrait être le suivant. Elle devrait être partagée. Or, vous avez deux discours qui sont radicalement opposés, qui ne sont pas du tout compatibles. Vous en avez un, le mien, et celui de Borgberg, par exemple, et de Cahuc, qui sont les auteurs de ce livre, qui disent la France a un niveau de dépenses publiques trop élevé, un niveau d'imposition trop élevé, le premier d'Europe, à cet égard, là encore. Et surtout, la dette publique ne cesse de gonfler, parce qu'elle va atteindre 100% au début de l'année prochaine. Et que dans les autres pays, elle baisse, chez nous, elle continue à monter, on continue à vivre à crédit. Vous avez un autre camp qui dit le problème de la France, c'est que c'est l'austérité. L'austérité à 3,7% de déficit, c'est amusant, mais enfin, il y a des gens qui pensent sérieusement qu'il faudrait une relance avec encore plus de déficit et encore plus de dettes. Vous voyez bien que ces deux discours sont absolument non compatibles, et que donc, tant qu'on aura deux discours économiques aussi incompatibles que ces deux-là, nous ne pourrons pas régler nos problèmes.
Nicolas Truong.
Moi, je pense qu'au contraire, le combat idéologique, le débat idéologique, à partir du moment où, effectivement, il y a une rationalité commune qui est reconnue, doit et peut avoir lieu. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et il me semble qu'une des nouveautés, notamment de cette année, c'est que il y a des chercheurs qui ont interrogé leur propre science, d'une certaine façon, et qui, au gré de sondages sur l'islam ou d'études sur l'économie française, se sont mis à contester, à se dire « mais attendez, il faut regarder comment on fait, qu'est-ce qu'on fait dire aux gens, est-ce qu'on n'impose pas des problématiques ?» Bref, il y a eu beaucoup de débats cette année sur la façon dont on questionnait, notamment les Français, sur tel et tel sujet. Et je pense que ça, c'est quand même très intéressant, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inflation, je l'ai dit, des polémistes, mais aussi une inflation des sondages, des études qu'on sort, avec lesquelles on fait des manchettes et des gros titres, etc., dont on ne questionne jamais, au fond, la méthodologie. Et ça change aujourd'hui. Et précisément, je crois que c'est le rôle du débat d'interroger, comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui, précisément ce qui fait débat et comment on arrive à dire ce que l'on dit.
Et précisément, dans votre métier de tous les jours, quand vous devez choisir de donner la parole à un chercheur ou un autre, qu'est-ce qui fait que vous dites « oui, celui-ci mérite d'être publié dans Le Monde, journal de référence, on le dit souvent, ou pas ?»
Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, Michel Foucault aurait un blog. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez, même quand on travaille dans un journal de référence, dit de référence en tout cas, eh bien, il faut aller chercher. Donc, il faut beaucoup commander. Il faut beaucoup aller regarder ce qui se fait, ce qui se crie, ce qui se publie. Et là, on se dit sur tel sujet, oui, c'est lui qu'il nous faudrait pour parler. Ou bien au contraire, on peut avoir envie d'un auteur et puis aller à sa rencontre. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous dire, mais écoutez, non, ça, c'était ce sur quoi je travaillais auparavant. Là, je suis sur cette question-là où la question s'est déplacée. Donc, il faut aussi, en tant que journaliste, un peu réviser son jugement, un peu poncer contre soi-même. C'est une phrase.
Douter, c'est finalement.
C'est ça, c'est une phrase qui n'appartient pas, contrairement à ce qu'on pense, à un journaliste anciennement directeur de la rédaction du Monde, mais un philosophe qui s'appelait Adorno. Et je pense que ça, c'est très important.
Eh bien, on va rester là-dessus. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Truong, journaliste, directeur des pages idées, débat du journal Le Monde. Brice Couturier, journaliste et producteur à France Culture. Je rappelle que vous animez tous les jours le tour du monde des idées. Merci également.
11h53.
Voilà, heure de Paris, hein, c'est important pour nos auditeurs. Merci également à Florence Ponce, à Sigrid Azerwal et à Ovidio Dessouza.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.